4, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous retrouver sur Facebook. Je reçois aujourd'hui le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui est depuis 2013 directeur du séminaire israélite de France, qui est aumônier de l'hôpital Saint-Antoine et qui est rabbin de la synagogue de la place des Vosges. Bonjour.
Bonjour.
Bien évidemment, nous allons parler des violences conjugales et je sais que c'est un sujet qui vous interpelle, violences conjugales et également problème du guet, sur lequel vous réagissez assez fermement. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Je voulais vous demander si vous étiez surpris des violences conjugales dans notre communauté.
Oui et non. On ne s'habitue jamais à la violence, d'autant plus que lorsqu'on prétend être juif, lorsqu'on prétend de surcroît s'adresser à Dieu tous les jours, comment ne pas être surpris qu'une même personne pourrait attenter à l'intégrité physique, morale, psychologique d'un être, quel que soit son sexe de surcroît. Et là, il est vrai que cette violence, on ne s'y habitue jamais, mais au risque de vous étonner, je voudrais rappeler que la violence commence dans les mots, dans le langage. Et si dans la communauté juive, et je dirais dans la communauté de l'éducation nationale, donc tant les établissements privés que publics, on ne s'attaque pas à cette question du rapport à l'autre, la manière d'aborder un débat, d'instaurer un échange, qu'il y a des paroles qui tuent, qu'il y a des gestes qui ne respectent pas la dignité d'autrui, si on n'apprend pas tout ça aux enfants dès le plus jeune âge, le poids des mots, le poids des gestes. Et être juif précisément, et c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on est censé expliquer aux enfants, c'est que dans la Torah, bien sûr, on nous dira, on nous rétorquera que la Torah est elle-même constituée d'épisodes parfois sanglants, parfois violents, mais c'est pour mieux nous mettre en garde contre nos propres égarements en tant qu'être humain. La Torah est remplie d'arsenal aussi juridique. Et ce n'est peut-être pas par hasard qu'il y a encore plus de commandements pour les hommes que pour les femmes, puisque précisément cette violence doit être maîtrisée, encadrée, et que les lois de la Torah sont censées, avec lucidité, accompagner cette maîtrise dès le plus jeune âge. J'en veux pour preuve que le rapport à la force physique, le rapport de force tout court, le rapport aussi au sang, parce qu'il y a parfois effusion de sang, et ça, on le voit dès le début du livre de la Genèse, dans cette histoire du premier crime fratricide, où Dieu essaye par tous les moyens, par le dialogue, on voit bien qu'il n'y a pas de sanction tout de suite, mais par le dialogue, de faire prendre conscience à Caïn, de la gravité de son acte, qui, pour le coup, a fait couler le sang, et que la terre ne pourra jamais recouvrir les cris et les sangs d'un être humain. Et c'est précisément la difficulté qu'on a aussi, il faut le dire avec honnêteté, c'est que dans nos lieux communautaires, dans nos synagogues, parfois on croit que, non pas la terre, mais qu'un lieu, quatre murs pourraient faire taire la voix des personnes et plus particulièrement des femmes qui souffrent et qui sont confrontées à une violence conjugale, parce qu'on est censé être meilleur que les autres, que surtout il ne faut pas entacher l'image de la communauté, mais il y a un devoir pour chacun d'entre nous et encore plus pour les rabbins de dénoncer, de mettre en garde, d'admonester les hommes qui pourraient être amenés, lors de dérapages verbaux ou physiques, à attenter à cette intégrité. Alors, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la préparation au mariage. C'est-à-dire que c'est vrai.
Bah
oui, c'est là aussi, il faut dire honnêteté, c'est-à-dire qu'on se focalise sur les lois relatives à l'intimité conjugale, mais on ne se focalise peut-être pas assez aussi, encore une fois, dans la connaissance du corps de l'autre. Je dirais même la connaissance de son propre corps. Et c'est vrai que Alors, je ne sais plus comment ça marche aujourd'hui, parce que c'est vrai que moi, j'ai quitté l'école il y a bien longtemps, mais c'est vrai que dans les écoles juives, il y a des cours sur la sexualité, il y a des cours, mais je dirais que c'est pas juste sur la sexualité, c'est la connaissance du corps humain, et je dirais même de la psychologie d'un être qui diffère d'un sexe à l'autre, et qui diffère, je dirais même, d'un être à l'autre. Et tout cela, peut-être qu'on ne nous l'apprend pas assez. Et qu'il y a parfois, et que cette violence est parfois, je dis parfois, hein, sans émettre de jugement de valeur, est parfois le fruit d'un long malentendu qui s'est installé sur le plan culturel dans les familles. Parce qu'en fin de compte, là je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais parfois ce n'est qu'une pâle reproduction de ce que certains ont vu dans leur famille et qu'ils pensent relever de la normalité. C'est ça qui est terrible. Et normalement, en tant qu'enseignant de la Torah, en tant que rabbin, on devrait aborder ces choses, puisque les rapports amoureux sont abordés dans la Torah avec lucidité. Il n'y a pas de tabou. Mais là encore, il y a beaucoup de chemin à parcourir au sein de notre communauté.
Alors, je parlais il y a quelque temps avec une personne qui, justement, donne des cours pré-mariage aux jeunes futurs mariés. Et je lui disais, peut-être il serait intéressant d'évoquer quand même le problème des violences conjugales. Et il m'a été répondu, mais vous pensez quand même pas qu'en préparation au mariage, on va évoquer des choses pareilles. Il me dit, c'est comme si on évoquait le divorce.
Mais si.
Eh ben non.
Ben si. Ben attendez, mais la Ketouba, qui est la déclaration des droits de la femme mariée, puisque cette Ketouba n'appartient pas à l'homme, il la transmet devant témoin à la fin de la cérémonie religieuse du mariage à la femme, en lui disant « Voici ta Ketouba, elle contient tous ses droits et les clauses qu'il a souscrites devant témoin en prenant à témoin les cieux et la terre. » Mais on évoque des sommes aussi donc, qui garantissent ce lien matrimonial. Donc on évoque incidemment l'éventualité, on la souhaite pas, de la dissolution du lien matrimonial et qu'on veut surtout pas que la femme se retrouve confrontée à un abandon. Un abandon, et alors même si aujourd'hui on peut se féliciter que les femmes soient autonomes sur le plan professionnel et donc économique, il n'en reste pas moins que cette Ketouba, incidemment, lorsqu'on l'évoque avec le couple, et plus particulièrement avec l'homme qui s'engage, on doit évoquer aussi cette éventualité. Attention, s'il y a le moins de problèmes dans le couple, bien évidemment qu'on doit se battre, parce que le divorce est aujourd'hui une facilité, mais à un moment donné, c'est un droit de la femme d'avoir son guette. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais il faut quand même rappeler aux uns et aux autres que lors du moment le plus important qui a accompagné la naissance du peuple hébreu après la sortie d'Égypte, la révélation de Dieu aux Hébreux sur le mont Sinaï, on voit bien qui est l'événement fondateur de la religion juive et qui interpelle le peuple d'Israël dans sa totalité. On connaît ce commentaire très connu du célèbre exégète champenois Rashi, « Kotomar lebet Yaakov et Agad ibn Israël. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu proclameras aux fils d'Israël. » Et là, il est bien clairement exposé que on s'adresse d'abord aux femmes et après aux fils d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un appel solennel en priorité aux femmes, parce qu'il y a une prédisposition à recevoir cette parole divine. Et donc, comment pourrait-on imaginer un seul instant que si la Torah véritablement interpelle les femmes en priorité, pourquoi les femmes d'abord, selon le Midrash ? Parce qu'elles sont précisément dans cette réceptivité à la voix divine, dans ce zèle qui est constitutif de l'accomplissement des lois de la Torah, puisqu'il y a quand même un zèle et un amour. Et c'est précisément parce que la femme recèle en elle ces prédispositions que la Torah s'adresse en priorité. Il y a donc une préséance accordée à la femme dans ce passage relatant la révélation. C'est donc une confiance accrue dans la solidité, la profondeur de son attachement à Dieu. Quiconque toucherait à un cheveu de cette femme qui est dépositaire de cette révélation s'attaquerait à la présence divine. Donc il est évident qu'un homme qui s'adonnerait à une violence violenterait la présence divine, il chasserait Dieu de cette maison. Et donc comment peut-on prétendre encore une fois au service divin souligné dans le don de la Torah si on voit que ce rôle prépondérant est complètement balayé d'un revers de main. Pour le Talmud, et c'est très clair, on le voit dans le Talmud Yebamot, page 62b. Au contraire, l'épouse a droit à de plus grands égards que le mari. À qui aime sa femme, nous dit le Talmud, comme lui-même, et l'honore plus que lui-même, tu verras le bonheur dans ta demeure. Donc c'est bien, et on voit même dans d'autres textes talmudiques que l'homme doit toujours être attentif à la dignité de sa femme. Parce que s'il prétend à la bénédiction divine, s'il veut que cette bénédiction réside dans la maison, il faut véritablement que son épouse soit protégée comme vecteur de cette sainteté. Alors bien évidemment, si on s'attaque à cette épouse, alors il n'y a plus rien. La présence divine vole en éclats.
Je vous propose une petite interruption musicale et nous reprendrons cet entretien tout de suite après. Entretien avec monsieur le grand rabbin Olivier Kaufmann et nous avons parlé dans une première partie des violences conjugales, des violences psychologiques, des violences morales. Monsieur le grand rabbin nous a cité quelques textes qui nous démontrent combien cette violence est condamnée par la Torah. Dans une deuxième partie, je voudrais qu'on évoque la violence qu'est le guet, puisque je sais que c'est un sujet qui est très important pour vous et qui est un sujet extrêmement important dans la communauté juive et pour les femmes aujourd'hui.
Oui, c'est compliqué à plus d'un titre, puisque nous vivons dans un pays où le régime matrimonial est régi par la loi civile. Donc, il est évident que le Beddin de Paris, ou un autre Beth Din même en France, n'a pas les mêmes moyens coercitifs que ceux dont dispose le tribunal rabbinique en Israël ou dans des pays de droit mosaïque, comme dans certains pays du Maghreb. Donc, il est évident que même si on explique, comme je l'ai dit précédemment, au couple et tout particulièrement au mari, que la ketouba appartient à la femme et que cette ketouba qui instaure donc un lien entre époux ne peut être dissoute que par un divorce, il n'en reste pas moins que souvent on se retrouve dans des situations où le guet est monnayé. Ce qui est crapuleux. Il est monnayé souvent sur les conseils d'avocats qui connaissent bien le système. Et on a un Beth Din qui parfois n'a pas les mêmes moyens pour rivaliser avec des avocats parce que nous sommes dans une situation où tout se judiciarise. Et donc, il est évident qu'un rabbin qui siège au Beth Din n'est pas toujours formé à cette notion de médiation et que il est évident, je pense que les derniers événements l'ont prouvé, et je pense qu'on a tiré le son sur ce point-là, qu'il n'y avait aucune négociation possible devant le Beth Din. C'est clair et net. Que les avocats des parties se réunissent dans un autre lieu et fassent leurs négociations, je dirais, c'est la règle du jeu, hélas, de ce qui se passe dans ce pays. Mais, et donc, du coup, quels sont les moyens à notre disposition ? S'il est vrai que le grand rabbin de France, les Dayanim, qu'aujourd'hui il y a même le grand rabbin d'Aan qui travaille auprès du grand rabbin de France, qui fait tout pour que des solutions soient trouvées à tous les cas problématiques, force est de constater que nous avons des maris récalcitrants, parfois même religieux, ce qui est un non-sens, mais bon, c'est comme ça. Et ce que le Beth Din peut faire, alors déjà il y a une pratique qui avait été initiée, je dois quand même le dire et le redire parce que je sais que souvent on critique le Beth Din et le Grand Rabbin de Paris, mais qui avait été instaurée à l'époque par la créativité du Grand Rabbin Guggenheim et du Beth Din, à savoir une pratique empruntée au droit notarial qui a ses limites, j'en conviens. C'est-à-dire que si le mari ne se rend pas aux convocations du Beth Din, le Beth Din peut donc dresser un procès-verbal de carence. Fort de ce procès-verbal de carence, la femme peut faire valoir un préjudice moral. Alors vous me direz, mais le problème, c'est que la plupart des maris sont assez intelligents pour organiser leur insolvabilité. Et rien ne les arrêtera quand un mari est là pour faire du mal, embêter, faire violence, parce que c'est une violence. Et ça, il faut le dire aux hommes religieux. C'est un acte de violence et qui ne peut pas être acceptable, ni en haut, ni en bas. Et ils auront des comptes à rendre. Alors, s'ils sont vraiment croyants, ils auront des comptes à rendre devant le tribunal céleste, parce qu'on dit que chaque larme qui est versée par une femme, nous dit le Talmud, c'est l'autel d'en haut, de la Jérusalem d'en haut, qui verse des larmes. Donc qu'ils le sachent. Maintenant, encore une fois, je dirais que mes paroles sont vaines par rapport à une ténacité parfois cruelle de certains hommes qui veulent bloquer leur femme. Et le film sur ce fameux guet. Le guet relate avec beaucoup de force et d'émotion cette impossibilité à trouver une solution. Maintenant, après, chaque rabbin peut quand même faire preuve d'imagination. Voilà, il y a des hommes qu'on peut bloquer ou, je dirais, entraver leur démarche publique, parce que c'est vrai que généralement il y a des hommes qui sont très attachés à leur image publique, c'est que dans la communauté on peut refuser tous les honneurs. Je pense à refuser une aliya, de faire monter à la Torah. Je pense dans certains cas, comme j'ai pu le faire très rarement, mais je l'ai fait dans ma communauté, à même, alors ça peut être violent, mais c'est aussi violent que l'acte de rétention du guet, c'est de refuser de lire les noms des disparus de cette personne. C'est violent, mais encore une fois, comment pouvoir prétendre à monter sur la Teva, à faire valoir les noms de sa famille, alors que de l'autre côté, il y a un être qui souffre et qui est enfermé et qui n'est pas libéré de ce lien. Alors vous me direz, mais pourquoi nous, les rabbins, on ne trouve pas de solution alors, encore une fois, la difficulté, elle est très claire, elle est halakhique, juridique. Alors bien sûr, on me dira, mais on peut c'est vrai que certains proposent des accords prénuptiaux. Il y a toutes sortes de solutions qui n'ont pas l'assentiment. Alors, je sais bien qu'on me dit les rabbins européens, tout ce que, mais ils n'ont pas l'assentiment de certains dayanim, parce que dire un accord prénuptial, c'est donc invoquer la possibilité dès le début d'un divorce rétroactif. Donc, il y a un problème juridique. Après, certains, donc il y a des controverses à ce sujet. Et je crois que le livre du grand rabbin Dahan explique très bien toutes les solutions qui avaient été à un moment donné inventées et proposées dans l'histoire du rabbinat en France et en Europe. Mais pour revenir à cette question de trouver une solution, il y a aussi dans certains cas la possibilité de faire pression. Alors là aussi, le problème, c'est jusqu'où peut-on faire pression ? Parce qu'il y a aussi cette question du get meusé, un get qui serait obtenu par violence. Alors, c'est toujours bon. Et en même temps, c'est vrai que dans certains textes, on dit tu dois l'obliger jusqu'à ce qu'il dise je donne le get. C'est vrai que nos moyens sont limités. Mais un rabbin digne de ce nom doit, par tous les moyens, d'abord accompagner, faire des déclarations. Comme l'avait décrété la coopération féminine, et je pense à Madame Asco, à Evelyne Asco, c'est cette déclaration que nous faisons tous les jeunes, tous les ans, lors du jeûne de la reine Esther. C'est-à-dire vraiment marquer les esprits et faire comprendre que cette violence était inacceptable et qu'elle doit être proscrite du champ communautaire. En tout cas, voilà les solutions, j'en conviens, qui ne sont pas les plus déterminantes, mais qui doivent nous permettre à chaque fois de marteler et de ne jamais cesser de crier haut et fort que Dieu, le nom de Dieu ne peut pas être associé à ce genre d'acte.
Écoutez, j'espère que tous les rabbins auront la même, en tout cas la même volonté.
Il y en a plus que vous imaginez. Hein.
Oui, j'espère. Hein. J'espère. Je ne les connais pas tous, mais j'espère qu'ils essayent tous, avec les moyens qu'ils ont, bien évidemment, de faire en sorte que ces maris puissent donner le guet. Parce que pour une femme, c'est terrible. Enfin, une femme qui souhaite pouvoir se remarier religieusement, c'est une entrave.
C'est d'autant plus terrible qu'après, il y a une autre question qui se pose, c'est les enfants qui pourraient naître d'une union alors que la maman n'est pas encore libérée de ce lien marital. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de questions qui, je dirais, gangrène en plus le débat. Maintenant, encore une fois, je connais les frustrations. Je sais que beaucoup de gens pensent que le rabbinat consistoriel ne va pas assez loin. En tout cas, la prise de conscience, elle existe. Et la vigilance doit être renforcée au sein du rabbinat, au sein de la formation des élèves rabbins. Et que nous ne cesserons pas de renforcer cette formation. Mais encore une fois, aussi dans la sérénité. Parce que parfois, ce qui est difficile, c'est les débats passionnés, j'en conviens, mais qui parfois oblitèrent la question de base. C'est qu'il faut absolument, encore une fois, se battre pour défendre non pas les intérêts, des uns et des autres, mais l'intérêt général. Et il passe, bien évidemment, comme vous l'avez souligné, par l'action que vous réalisez. Et je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre émission. Je sais le travail considérable que vous réalisez et le travail, je dirais, presque de porte à porte que vous faites en faisant connaître votre action. Et c'est tout à votre honneur et que Dieu vous accompagne dans ce que vous réalisez.
Écoutez, je vous remercie pour ces compliments. Nous allons essayer effectivement de continuer ce que nous faisons depuis maintenant 9 ans et d'aider le plus de femmes de notre communauté en détresse. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission de l'association Noah Osez le Dire, une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences, que vous pouvez nous joindre au 01 47 07 39 55 du lundi au jeudi de 13h à 16h. Vous aurez toujours une interlocutrice bienveillante qui vous écoutera et qui vous donnera les conseils. Je répète le numéro de téléphone, le 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr et nous suivre sur Facebook. Il me reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.
À bientôt. Merci.